Donc, formation fondamentale, cycle 1, la Trinité. Voilà ce qu'a dit le pape Léon XIII sur le mystère de la Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité est la substance du Nouveau Testament. Le mystère de la Sainte Trinité est la substance du Nouveau Testament. Ça veut dire que tout le Nouveau Testament parle, tout l'Évangile parle de la Trinité. Il ajoute aussi le plus grand de tous les mystères, la source et le fondement de tous les autres. Le plus grand des mystères, la source et le fondement de tous les autres. Et voilà ce que nous dit l'Église dans son catéchisme. Au numéro 234, le mystère de la Trinité, de la très sainte Trinité, est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. C'est assez impressionnant. Voilà. Ça éclaire tout. C'est le soubassement de tout et c'est la vérité la plus haute. Donc, quelque part, c'est un mystère qui nous dépasse encore plus que les autres. Et pourtant, il faut essayer d'en dire quelque chose. C'est dans cette foi-là, je me rappelle, que nous sommes baptisés. Alors, commençons peut-être par méditer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez que le Seigneur Jésus, dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, a invité les disciples, les apôtres, à aller dans le monde entier, de faire des disciples, de leur apprendre les commandements, et aussi de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important parce que c'est l'expression de la foi trinitaire. Voilà. Le mot « Trinité » est venu plus tard, mais la foi trinitaire est bien dans l'Évangile. Elle est proclamée par Jésus. Jésus parle d'un Dieu comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les chrétiens sont ainsi baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément au commandement de Jésus, qui a voulu que cela soit ainsi. Ils sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom A-U, plus loin N-O-M, et non A-U-X, plus loin N-O-M-S, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le nom de Dieu qui se révèle est Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ne sont pas baptisés, les chrétiens, au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas un polythéisme, il n'y a pas trois dieux. C'est l'unique Dieu dans le nom. Ce fameux nom que les Juifs ne prononçaient pas, ils le disaient une seule fois dans l'année, le jour du Yom Kippour, du grand pardon. Le grand prêtre prononçait le nom de Dieu. Et donc, prononcer le nom, c'est mettre la main sur Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, on ne prononce pas le nom de Dieu parce qu'on ne met pas la main sur Dieu. Et quand Jésus lui-même nous révèle que Dieu est Père, qu'il est le Fils éternel et qu'il y a aussi l'Esprit Saint éternel, à ce moment-là, nous pouvons proclamer l'intérieur du nom. De l'extérieur, serait été de mettre la main sur Dieu. Au nom, c'est sa divinité, c'est sa déité, déité, la propriété, la qualité divine, comme pour nous, c'est l'humanité. Serait été de mettre la main dessus. Mais de l'intérieur, quand Dieu se révèle, il nous révèle son intériorité, et dans ce Dieu unique, dans son intériorité, le Père, Fils et Saint-Esprit, il y a une trinité de personnes. Voilà. Donc, une fois révélé, nous pouvons dire effectivement à Dieu Père, effectivement à Dieu Jésus, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Pour avoir plus d'informations, je vous renvoie sur l'enseignement qui a été fait sur le Saint-Esprit qui explique cela. Voilà, vous le trouverez aussi. Nous disions que le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi, la source qui éclaire tous les autres, évidemment. Le mystère de l'Assomption, le mystère de l'Incarnation, le mystère de la Rédemption, tous les mystères, l'Immaculée Conception, l'Eucharistie, la confession, le mystère de l'Église ont quelque chose à voir avec le mystère trinitaire, qui est le soubassement. D'ailleurs, s'ils n'ont pas quelque chose à voir, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas dans la Trinité. Donc, il y a toujours ça en soubassement. D'ailleurs, c'est très fort, si vous méditez le mystère de l'Église, dans la constitution de l'Église, Lumen Gentium, dans le Concile Vatican II, les trois premiers éléments du premier chapitre, c'est la déclinaison de l'Église sous le mode trinitaire. Qu'est-ce que l'Église? Pour le Père, pour le Fils et le Saint-Esprit. Et on parlera de l'Église comme peuple de Dieu, un peuple qui suit Dieu le Père. On parlera de l'Église comme corps du Christ, uni au Fils. Et on parlera de l'Église comme temple de l'Esprit Saint, uni au Saint-Esprit, sous mode trinitaire. Vous voyez, là, c'est un exemple de compréhension juste du mystère de l'Église dans le mystère de la Trinité. Eh bien, on peut parler de la même chose pour le baptême, pour plein de choses. Et ça, c'est chrétien, profondément. J'avais été touché récemment, en allant à Ars avec des jeunes, d'entendre le prédicateur, le curé de la paroisse, dire que dans le premier siècle, les gens aujourd'hui, ils parlent des actualités, des sportifs, des guerres, etc., à la boulangerie, on peut parler de tout. Dans le premier siècle, les chrétiens entre eux, ils discutaient de la Trinité. C'est incroyable. Ils parlaient de ça, ils réfléchissaient là-dessus, ça les fascinait. Donc on peut être fasciné par le mystère trinitaire. Voilà, il faut en faire notre culture, refaire notre culture de cela. Le Concile Vatican I a dit que le mystère de la Trinité est un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons savoir des choses de Dieu, je renvoie encore à certains enseignements que nous avons faits, sur le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, il y a une partie qui explique la première partie, que Dieu peut être connu par la raison seule, sans la foi. On a des preuves de l'existence de Dieu rationnellement. Voilà, on peut avoir une idée du Créateur par la raison. C'est très intéressant pour discuter avec des athées, des agnostiques, des sceptiques, ou des chrétiens, en mal d'intelligence de la foi. Mais ça, c'est la raison, qui dit des choses sur Dieu, mais de manière extérieure à Dieu, limitée. Mais on ne peut pas commencer par argumenter sur la Trinité en disant « je vais te démontrer par la raison ». Non. Le mystère trinitaire est au-delà de la raison. Et pour être bien sûr qu'on ne tombe pas dans l'idolâtrie, c'est-à-dire de réduire Dieu à notre propre intelligence, le Concile Vatican I a rappelé que ce n'était possible que par révélation à ce niveau. Dieu, le niveau de Dieu, dans son intimité, ce qu'il est, n'est connaissable que par révélation. Sinon, on n'y a pas accès. Ce qui explique pourquoi il y a tant de personnes qui ne croient pas à la Trinité. Parce qu'ils n'en ont pas eu la révélation. Parce que c'est quelque chose de proprement surnaturel. Nous pouvons utiliser toute notre intelligence à comprendre ce mystère, mais ce mystère nous dépasse. Comme diraient les pères de l'Église, si tu as tout compris, ce n'est plus Dieu. Donc véritablement, ne réduisons pas Dieu dans la Trinité, dans le mystère trinitaire, à ce que nous concevons, et du coup ce que nous concevons en croyant que rationnellement on peut le démontrer. C'est faux. C'est faux. Ça relève de la révélation de la Trinité. Puisque la connaissance de Dieu unique, elle est possible par la raison. C'est le Dieu des philosophes. Un autre point important, par effet, j'allais dire par effet de conséquence, quand la révélation est donnée, on va voir comment elle est donnée dans le mystère trinitaire, Dieu nous permet d'utiliser notre intelligence pour voir le monde, nous-mêmes, la création, sous le prisme trinitaire. Un regard trinitaire sur l'homme, un regard trinitaire sur la société, un regard trinitaire sur l'Église, un regard trinitaire sur le couple, un regard trinitaire sur les oiseaux, sur les fleurs. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est un regard qui suppose la foi en la Trinité, mais il y a des vestiges, dira la théologie, de la Trinité dans l'univers. Parce que c'est bien la Trinité qui a créé l'univers. Et pas le Père Tout-Puissant, comme nous l'avons vu dans un des enseignements. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'univers. Donc il y a quelque chose de... mais qui est véritablement connaissable par la révélation. Voilà. En Israël, vous savez, en Israël, on employait déjà le mot de père. Ça veut dire qu'il y avait une dimension dans la paternité, quand Dieu était employé comme père, de fidélité. Dieu a fait alliance, il est père. Il est père des pauvres, comme disent les psaumes, parce qu'il s'occupe des petits. Israël a conscience de cela. Il est bon. Il est père et il aime d'un cœur de mère, avec des entrailles, diront les prophètes. Et la paternité de Dieu, elle est comprise aussi dans un sens transcendant, c'est-à-dire qui dépasse le cosmos, parce que dans d'autres religions, il y a pu y avoir une idolâtrie des choses, c'est-à-dire de croire que la statue de bois c'était Dieu, que les étoiles c'était Dieu, que la terre c'était Dieu. Et généralement, il y a des mythes, dont un des mythes anciens, c'est la déesse mère, la déesse Gaïa, c'est-à-dire tout ce qui a une vision mère de Dieu a souvent une vision fusionnelle entre la création et la divinité. Et il y a confusion, il n'y a pas transcendance, il y a immanence. Donc du coup, Israël, en faisant que Dieu est père, il transcende la création, il est tout autre, il a existé avant Dieu, la création. En gros, la création, elle existe par Dieu, mais Dieu n'existe pas par la création, elle existe pour. Et les oiseaux ne sont pas Dieu, les étoiles non plus. Donc la paternité de Dieu s'est posée à la fois dans une relation d'alliance, dans une fidélité et un amour pour les petits, mais aussi dans son mystère comme la transcendance. Donc se révèle la paternité de Dieu, je dirais, extérieure, on va voir pourquoi, dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va nous révéler la paternité de Dieu, donc cette première personne de la Trinité, de la manière intérieure. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement le transcendant, il est Père depuis toujours. C'est sa manière d'être. Il engendre depuis toujours et il continue à engendrer. Je l'ai déjà dit dans l'enseignement sur la paternité, un être humain, il est d'abord fils ou fille, il devient époux ou épouse, et un jour il est papa-maman. Il n'a pas toujours été Père. Dieu, il est toujours Père. Et il sera toujours Père. Donc il y a quelque chose de la paternité essentielle. C'est sa manière d'être. Et nous le redisons, chez nous, le nom qui nous est donné, ça fait partie de notre identité, mais le nom ne suppose pas toute notre identité, on est aussi être humain et toute notre fonction. Par exemple, Yvonne ne veut pas dire qu'Yvonne serait facteur ou etc. C'est des fonctions. D'accord ? Père, dans la Trinité, c'est son nom. De toute éternité pour toute éternité, c'est sa manière d'être. Il n'y a pas eu d'avant et après, il n'y a pas d'évolution. Mais c'est aussi sa fonction dans la Trinité, c'est Père. Vous voyez ? Donc il y a une valeur maximale à la dénomination des personnes. Valeur maximale dans le nom de Père, dans le nom de Fils et dans le nom de Saint-Esprit. Vous voyez ? Chez nous, c'est relatif. En Dieu, c'est maximal. Dieu est Père. Et Jésus nous a fait connaître l'intimité de la paternité maximale, c'est des mots à moi, la paternité absolue de Dieu, il est Père de toute éternité, il engendre sans cesse. Parce qu'effectivement, le Fils est dans le sein du Père. Jean 1, 18, le Fils qui était dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Avant, quelque part, on connaît Dieu de l'extérieur, même dans l'Ancien Testament. Avec Jésus qui est dans le sein du Père, on connaît la paternité de Dieu par le Fils. Donc il y a une révélation totale de la paternité de Dieu dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Donc on voit ce processus de la découverte de la figure de la première personne de la Trinité dans l'Ancien Testament jusqu'au Christ. Progressivement, Israël prend conscience qu'il est Père, au-delà de toute création, qu'il a une alliance, et à un moment donné, on connaît sa paternité dans son intimité, par le Fils, qui vit de cette intimité en permanence, dans le sein du Père. Le Fils se révèle aussi, non pas simplement comme celui qui est dans le sein du Père et qui nous dit quelque chose, mais qui a la même autorité que le Père, qui pose les gestes que le Père pose, qui parle au nom du Père, qui pardonne comme le Père, et qui est Dieu. Il dira « Je suis ». Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. « Je suis » qui est ce même Dieu qui a dit ce mot-là dans l'Exode à Moïse, dans le buisson ardent. Donc il se considère comme Dieu. Et en faisant cela, en fait, Jésus révèle la deuxième personne de la Trinité qui est le Fils, éternel. Abraham a vu mon jour. Donc il est en dehors du temps, là. Qu'est-ce qu'on dit? On verra que c'est quelque chose de la rencontre au chêne de Mambré. Voilà, on parle Jésus, deuxième personne de la Trinité. Lui s'est fait homme, s'est incarné, mais il est bien aussi le Fils éternel. Et donc, en tant que Fils, il reçoit sans cesse. Et ce n'est pas un éternel adolescent. Il est Fils. Et c'est une manière vraiment mûre d'être Fils toujours. Il reçoit toujours. Il n'est pas quelqu'un qui fait une crise d'indépendance, qui voudrait être indépendant. Non, il est toujours dépendant du Père, mais ça n'altère à rien à sa dignité. Il est Fils pour toujours. Et il apprend à être Fils quand on est Fils. Voyez. Il est la source de toutes les filiations. Et l'Esprit Saint, on en a déjà parlé, hein, l'Esprit Saint, Esprit c'est commun à Dieu, Dieu est Esprit, Saint, les trois personnes divines sont saintes, mais la contraction Esprit Saint fait un nom propre. Et c'est ce nom-là, et c'est pas un nom de fabrication intellectuelle, on a réfléchi, on s'est dit, bon, on va bricoler un truc, c'est un nom révélé par Dieu. Donc c'est un nom qui a une autorité. Il est Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Avec égale dignité, on verra, c'est dans notre credo, parce qu'effectivement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, finale de Matthieu 28, les trois personnes sont mises au même niveau. Il y a autorité. Les trois personnes sortent de la divinité, sont incluses dans la divinité au nom. Tu ne toucheras pas le nom, tu ne toucheras pas la divinité, et pourtant de l'intimité de cette divinité sortent les trois personnes, à égale dignité. Dans le credo, nous dirons, il procède du Père et du Fils avec le Père. Et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Voilà, les conciles, petit à petit, l'ont défini ainsi. Donc le Saint-Esprit, c'est son nom propre, c'est sa fonction. Il est Esprit, il souffle, il bouge et il sanctifie. Un Esprit qui sanctifie, c'est sa fonction. Et dans la Trinité, on va voir, il est le lien d'amour, le lien de sainteté entre le Père et le Fils. La communication entre eux. Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Donc ces trois personnes. Le Saint-Esprit se révèle comment ? Les trois personnes sont à l'action dès la Genèse. Et nous verrons, il y a des moments où, de manière cachée, dans l'Ancien Testament, il y a la Trinité qui est là. Je prends l'exemple de la rencontre d'Abraham avec la Trinité, avec Dieu, en Genèse 18, sous le chêne de Mambré, que représente l'icône de Roblef. Il y a effectivement ce passage où on a la Trinité. Puisque c'est très étonnant, Abraham va parler à Dieu en disant « Mon Seigneur », et à un moment donné, le texte passe de la personne au singulier, troisième personne singulier, aux troisième personnes du pluriel. Il y a une pluralité d'un seul coup, alors qu'on parle de la même dénomination, de la même personne. Et les pères de l'Église ont vu que là, on parlait bien d'une personne et de trois personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mystère du Dieu unique en trois personnes. C'est fort! Donc, mais ça c'est caché, mais les pères de l'Église ont vu cela. Et Roblef a utilisé ce passage-là pour illustrer le mystère de la Trinité. Mais dans le Nouveau Testament, quand la paternité divine est connue de l'intérieur, la première personne, quand le Fils est posé, ça choquera les Juifs que le Fils est Fils éternel, qu'il est l'égal du Père, qu'il est la deuxième personne de la Trinité, quand les choses seront posées, le Fils pourra à ce moment-là parler plus ouvertement de la troisième personne de la Trinité. En finale, il en parle en Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il en parle en Matthieu 28. Il parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tous les actes des apôtres et tout le reste du Nouveau Testament va être un déploiement de la personne du Saint-Esprit en tant que divin, en tant qu'être divin, en tant que Dieu. Et de fait, on parle de personne. Je renvoie à l'enseignement sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas une énergie ou un souffle de Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. On peut le chagriner. On ne chagrine pas un souffle. On chagrine une personne. C'est vide. Il peut penser. Il peut agir et prendre des initiatives. Et même le texte grec, parce qu'il faut savoir, je l'ai dit, je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu cela dans les autres enseignements, normalement le terme pneuma en grec, esprit, c'est du neutre. En grec, vous avez du féminin, du masculin, du neutre. Donc esprit aurait dû avoir des articles écrits en neutre pour le définir. Mais les évangélistes ont voulu écrire esprit avec des articles masculins pour montrer que c'est personnalisé. Parce qu'on parle bien là d'une personne. lieu de dire ekainon, parlant de l'esprit, on parle ekainos. Donc on parle effectivement d'une personne. Vous voyez ? Donc là, vraiment, il y a la profession de foi, là, il y a une personne divine. Donc il y a une révélation progressive de la Trinité. Cette révélation progressive de la Trinité, vous voyez, il y a une manière, là je fais de l'économie. Mais on va faire de la théologie. Ces deux approches, l'économie, ça ne veut pas dire quelque chose qui est radin. Se faire de l'argent, c'est le mystère de Dieu. C'est pas ça. L'économie dans la foi chrétienne, c'est-à-dire la révélation progressive du mystère de Dieu. C'est ça l'économie. Ça vient d'un terme grec. Et donc, si vous voulez, Dieu se révèle progressivement dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Dieu, il a toujours été Trinité. Nous, il nous est connu progressivement, et de siècle en siècle, on va approfondir cette foi trinitaire, qui est la même foi que celle des apôtres. Mais nous allons la conceptualiser, la penser, la méditer, la vivre dans la mystique. Elle va éclairer nos doctrines conjugales, sociale, ecclésiale, mais elle se déploie comme un gros cadeau qu'on a reçu, qu'on met des siècles à le déployer, à le ouvrir. Mais elle a été présente de manière brute mais totale dès le départ. Mais le Seigneur a voulu la révéler dans le temps parce que c'est le mystère des mystères. D'accord, ça c'est l'économie. Si nous faisons de la théologie, nous pensons Dieu en soi-même. Et donc, parce que Dieu de toute éternité il est Trinité, et de toute éternité il sera Trinité, et nous allons vers la Trinité, nous pouvons réfléchir aussi sur les articulations des personnes en Dieu. Comment le Saint-Esprit fonctionne avec le Fils, le Père, comment ça fonctionne, qui a quoi, quelle est la mission de chacun. Donc nous allons maintenant faire de la théologie. Vous voyez, il fallait faire une approche économique avant. La formation dogmatique se fait progressivement. Tout d'abord, ce qui me semble important, c'est de dire que vous avez peut-être entendu parler, quand on regarde, si on lit notre credo, on récite notre credo, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. On parle aussi des deux mêmes natures que le Père, et par lui tout a été fait. C'est une traduction un tout petit peu faussée, qui est juste, sinon on ne l'utiliserait pas, mais si on la poussait, elle serait fausse. Le terme grec est plus juste, on parle de consubstantiel. En fait, monsieur et madame sont de même nature humaine, si je poussais les choses, mais vous êtes deux personnes différentes. Mais vous êtes deux éléments différents, deux êtres humains différents. Si je poussais les choses et je dirais que Jésus est de même nature que le Père, deux êtres différents, c'est deux dieux. C'est pour ça que le mot nature peut confondre. On parle de nature divine, mais si on poussait les choses, on fait ça. Tandis que quand on parle dans le terme latin, consubstantiel, c'est-à-dire la même substance. Monsieur n'a pas la substance humaine de madame. Sinon, vous êtes une personne à deux têtes. Or, c'est ça Dieu. C'est-à-dire que le Père, le Fils est consubstantiel au Père, il partage sa substance. Alors, le terme de même nature, on doit le comprendre comme ça. Si on le comprend comme il est de la même nature divine que le Père, mais dans une autre, c'est un polythéisme. Donc, les mots peuvent être prêtés à ambiguïté. Donc, le Fils est consubstantiel au Père. L'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils. Ils partagent avec eux la même divinité. On va voir les formulations dogmatiques, mais c'est puissant à dire qu'il n'y a pas trois dieux, chacun est plein à toute la divinité. Donc, consubstantiel, c'est ça. Le Père a un mouvement sur le Fils, exerce un mouvement. C'est le mouvement de l'engendrement. En fait, il y a plusieurs mouvements dans la Trinité. Vous avez un mouvement qui va du Père au Fils, qui est un mouvement d'engendrement. Vous avez un mouvement du Fils au Père, qui est un mouvement de retour, de filiation. Vous avez un mouvement du Père à l'esprit qu'un mouvement de procession. Vous avez un mouvement du Fils à l'esprit qui est aussi un mouvement de procession. Et on en vient à notre credo, il procède du Père et du Fils. Ça, c'est des mouvements qu'on a induits. Pour les orthodoxes, le débat qu'on a eu dans les, je ne sais plus quelle époque, peut-être en 800 par là, le fameux filioque, il procède du Père et du Fils, a été pour eux une grave hérésie. Comment l'Église catholique romaine a pu rajouter un élément de notre credo de Nicée-Constantinople écrit dans les années 300 et quelques. Ça, c'est non, vous ne pouvez pas. Pour les orthodoxes, ça fait juste au niveau de la théologie, le Père envoie le Fils, envoie l'Esprit Saint. Parce que le Père est source de tout. Il engendre le Fils, donc il a une relation avec le Fils d'engendrement, tandis qu'il a une relation avec le Saint-Esprit d'une autre manière, qui est une relation de source. Il envoie, il fait procéder. Très bien. La théologie catholique, avec le temps, a approfondi cela en découvrant que le Saint-Esprit était effectivement donné en premier. Il y a le Père qui est la source. Mais dans cette action du don du Saint-Esprit, il y a aussi l'action du Fils qui donne aussi le Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils. Et de fait, c'est le Fils à la croix qui envoie l'Esprit. Vous voyez ? Donc il y a un crescendo, mais en réalité, le Fils aussi donne. Donc, l'Église a rappelé cela dans le Concile de Lyon en 1274. Là, je fais très précis. En disant, je le cite là, si vous pouvez aller voir, c'est le Catéchisme de l'Église catholique, numéro 248. La tradition orientale exprime d'abord le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit, en confessant l'Esprit comme issu du Père. Elle affirme que celui-ci est issu du Père, par le Fils, d'accord, mais issu du Père. La tradition occidentale, c'est la nôtre, exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils. Il y a un lien entre les deux. Elle le dit de manière légitime et raisonnable, nous dira le Concile de Florence en 1439. Car l'ordre éternel des personnes divines, dans leur communion consubstantielle, implique que le Père soit l'origine première de l'Esprit en tant que principe des principes, mais aussi en tant que Père du Fils unique. Il soit avec lui l'unique principe d'où procède l'Esprit Saint. Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. Donc il n'y a pas fondamentalement d'opposition entre le credo orthodoxe sur ce point-là et le credo catholique. C'est simplement un déploiement que les catholiques ont fait, un déploiement, une précision qui était nécessaire. C'est quand même intéressant. Donc il a fallu... On va peut-être développer toujours des éléments là-dessus en disant que voilà, il y a eu le concile de Nicée et le concile de Constantinople, donc Nicée c'est 325 et Constantinople c'est 381. Nicée va en 325 affirmer la consubstantialité. Et du Père et du Fils. Et Constantinople affirmera en 381 « Nous croyons dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie et procède du Père. » Voilà. Donc on voit, on ajoute à ce moment-là Constantinople pour donner la divinité au Fils, au Esprit Saint, qui a toujours été cru, mais là on le formalise dogmatiquement. Et plus tard, le filioque apparaîtra, et plus tard, au Moyen-Âge, on réaffirmera que ça a été légitime de le faire. Voilà. Donc maintenant, rentrons un petit peu dans ce mystère trinitaire des personnes, avec le temps qui nous reste. Il nous reste un peu de temps. Dans la Trinité, les personnes sont en mouvement. Dieu est circulation et mouvement. Ce qui définit les personnes, véritablement, ce sont leurs relations. si elles sont bien uniques chacune. Elles sont relatives les unes des autres. Père pour, par rapport à qui ? Fils par rapport à qui ? Esprit Saint par rapport à qui ? Donc, il y a forcément leur identité est relative les unes des autres. Elles ont tout l'être divin, chacune. Chacune est créatrice. Mais elles ont en propre, elles ont un mode d'agir relationnel qui est unique. Ce qui fait leur personnalité. L'un est père et engendre, l'autre est fils et reçoit. L'autre est Saint-Esprit et circule. Il y a de la circulation dans la Trinité. Le Père engendre, le Fils qui est engendré, ce mouvement-là est fait dans le Saint-Esprit. C'est la personne amour qui circule entre le Père et le Fils. Le Fils reçoit et redonne tout par l'Esprit Saint au Père. Il y a un mouvement de va-et-vient. Alors c'est un truc de fou, parce que ça nous paraît un peu abstrait, mais imaginez quand même que c'est ce mouvement-là qui a créé le cosmos. Les constellations entières sont créées par le mouvement trinitaire. Les galaxies, le soleil, les molécules, les mouches, les oiseaux sont créés parce que Dieu est créateur et qu'il crée ça. Extraordinaire, quand on commence à réfléchir. Fascinant. Et ça, c'est un mouvement d'amour. Un mouvement d'amour, un mouvement hyper puissant et un mouvement qui s'auto-suffit. C'est du combustible, en pénurie d'essence, c'est du combustible qui brûle mais qui ne s'éteint jamais. La révélation de l'Exode a été certainement pour Moïse quelque chose d'extraordinaire. Dieu, c'est du feu. C'est-à-dire que c'est un feu qui brûle sans consumer. Ça ne s'arrête pas. Si je dis ça, c'est que Dieu est une puissance créatrice d'amour, la Trinité qui vit comme ça, sans avoir besoin d'autre chose pour s'autosuffire. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de créer pour être plus heureux. La Trinité est heureuse. Et la Trinité n'est pas nombriliste. Ce n'est pas comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir en disant « Je suis beau, flattez-moi », comme dirait Louis Funès dans La Folie des Grandeurs. « Flattez-moi mon bon blaze ». La Trinité s'auto-suffit parce qu'elle n'est pas nombriliste, parce qu'elle est communion, elle est société en elle-même. Elle est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils sont très heureux. Et ils ont toujours été très heureux. Et ils seront toujours très heureux. Du plus grand bonheur. La Trinité, c'est tout sur tout. Tout ce qui est créé vient de s'éprouver en elle. C'est extraordinaire. Et par un surcroît d'amour, la Trinité a créé pour faire participer, par pur amour, et participer particulièrement les êtres spirituels à sa propre vie divine. C'est la première article du catéchisme de l'Église catholique. Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Là, on verra dans la méditation de l'être, Dieu a créé pour nous faire participer à sa vie. La Trinité veut nous faire rentrer dans sa vie. C'est extraordinaire. Alors, si on continue un peu le mystère, il y a une très grande unité. Vous imaginez trois notes que vous appuyez sur un piano, ça sonne en même temps un seul son. L'action trinitaire, les trois veulent ensemble la même chose. Les trois agissent ensemble, trois notes. Il n'y a jamais de fausses notes. C'est extraordinaire. Une unité comme on n'en a jamais vu. Et pourtant, une distinction comme on n'en verra jamais. Parce que le terme de personne a été inventé par la Trinité pour définir la Trinité, pour comprendre un peu, parce qu'on ne comprenait pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous est vraiment une personne, libre, avec des désirs, ok. Mais nous sommes rien par rapport à ce qui est personne dans la Trinité. Ce qui fait que celui qui va vers la Trinité de plus en plus se personnalise. Parce que c'est un pouvoir personnalisant la Trinité. Donc vous voyez, ce n'est pas l'uniformité, tout semble plus uniforme, et on chante la même chose. Il y a une personnalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est bien plus différent du Fils que ne sera jamais la biche de l'aigle. Et pourtant, il y a une unité dans la Trinité plus forte que n'importe quelle molécule. Distinction des personnes, unité. Extraordinaire. C'est un paradoxe. On n'arrive pas à comprendre ça. voyez, ben, on commence à rentrer dans le niveau de la proportion de Dieu. Ça nous dépasse. C'est pas fini. Vous donnez la vie à quelqu'un. Une maman qui donne la vie à quelqu'un. Très bien. Il y a un enfant qui vient au monde. Elle a donné quelque chose de sa chair. Le papa aussi peut le dire, mais la maman, c'est viscéral. Très bien. Mais enfin, vous n'avez pas donné votre chair. Parce que si vous donnez votre chair, vous êtes mort. Et encore, vous n'êtes plus rien, c'est lui qui a la chair. En Dieu, le Père donne tout au Fils. Tout le Père va dans le Fils. Le Fils donne tout au Père. L'Esprit Saint se donne tout au Père et au Fils. Et pourtant, il subsiste. Il ne garde rien pour lui. Si nous faisions ça dans nos relations, on mourrait. Dieu le fait et continue à subsister. Parce qu'il est vraiment bon. Quand il dit ça, il dit « Je donne tout, mais je ne perds rien. » Truc de fou, ça aussi. Incroyable comment ça marche. Et pourtant, c'est vrai. La Trinité fonctionne ainsi. Il y a un mouvement don total qui se transmet. On appelle ça la péricorèse. C'est un terme de théologie. Dieu donne le Père, le Fils est tout entier dans le Père et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est tout entier dans le Père et le Fils, etc. Et pourtant, le Fils reste le Fils, le Père reste le Père, l'Esprit Saint reste l'Esprit Saint. Extraordinaire. Du mouvement, et ils se donnent complètement l'un à l'autre. Ils ont des fonctionnements différents, et pourtant, il y a une unité absolue. Extraordinaire. La Trinité est créatrice. Ce que le Père veut, le Fils le veut, l'Esprit Saint le veut. L'action est toujours conjointe à l'unisson. Quand le Fils s'incarne, c'est bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit-Saint qui agissent. Prenons un exemple pour comprendre cela. Quelqu'un parle. Il parle, sa bouche est l'origine de tout. Un son va sortir. Ce son, c'est du souffle, mais aussi un mot, une intelligibilité prononcée. Vous avez là l'expression du mystère trinitaire. L'origine du Père qui souffle, qui prononce une parole créatrice. La parole, c'est le verbe, fait chair, une intelligence donnée, dans laquelle tout modèle va être fait à partir de ses idées. Mais cette intelligence, cette parole est prononcée dans un souffle qui conjointement est l'Esprit Saint. Il n'y a pas de parole sans souffle. Il n'y a pas de souffle qui ne dit pas quelque chose. L'Esprit Saint ne dit rien par lui-même, il sous-tend une parole, il la fait prononcer plus forte ou moins forte, il donne l'intonation. L'Esprit Saint donne l'intonation à la parole, il nous permet de la comprendre. La parole se proclame dans l'Esprit. L'Esprit révèle la parole. Et les deux viennent de la bouche, qui est le Père, l'origine. La création, c'est la... Dieu parle, c'est la parole prononcée, c'est la source qui proclame, et c'est l'action conjointe des trois. Mystérieux, mais c'est vrai. Et vous pouvez, une bouche qui ne parle pas, ça n'existe pas. Un mot qui n'est pas dit d'une bouche avec un souffle, ça n'existe pas. Un mot sans souffle, c'est plus un mot. Les trois sont liés. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors on peut méditer vraiment là-dessus, dans l'action sacramentelle, dans l'action de la parole liturgique. Dans l'être humain, je disais, nous voyons cela. Dans l'être humain, ça c'est saint Augustin. Vous avez la mémoire, la volonté et l'intelligence. La mémoire, origine, est une image du Père. L'intelligence, cette capacité que Dieu nous a donnée, est une image du Fils, qui est l'intelligence, qui est la sagesse. Ce soir, on verra dans la lecture de la sagesse, on parle de manière voilée du Verbe, du Fils. Le Fils, c'est la source, c'est l'intelligence, c'est le logos. Tous les savoirs viennent du Fils. La biologie, la géologie, c'est des petits logos. Le Fils est le logos qui contient tous les petits logos, tous les petits logos. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'amour. Un savoir est toujours fait par amour. L'homme est capable de connaître, d'avoir une origine, mais il est capable d'aimer, de faire des choses, de volonté. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit. L'homme est à l'image trinitaire, mémoire, intelligence, volonté. Dans la création, vous avez cela. Les choses ont une origine. Elles ont une architecture, une harmonie, une pensée créatrice. Mais en plus, il y a de la gratuité. Comment ça se fait que la fleur est rose? Elle est rose parce qu'elle est rose. Parce qu'elle est l'expression d'une gratuité. Cette gratuité vient du Saint-Esprit. Dans la création, vous avez l'expression trinitaire. Dans l'être humain aussi. L'être humain est complémentarité. Le couple ouvre sur un tiers, il engendre vers une gratuité autre. La famille s'ouvre, c'est l'expression trinitaire. La communion, sacrement de communion, la communauté, la société sont des expressions de la Trinité. Le fondement de la société, de la doctrine sociale, nous rappelle l'Église et son compagnon, c'est le mystère de la Trinité. Vous voyez ? Donc la Trinité façonne tout. Façonne tout. C'est extraordinaire. Voilà, je vous laisse méditer tout ça, mais c'est vraiment beau. Entendez peut-être ce texte, et on parlera à quelques instants, mais non enregistré à voix off, comme promis de l'icône. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité, que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos, que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire toute enseignante, afin d'apprendre tout de vous, puis à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière, ô mon astre aimé, fascinez-moi, pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Au feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne voyez en elle que le bien-aimé, en laquelle vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de votre grandeur. D'Élisabeth de la Trinité en 1904.